Nous allons continuer à explorer la pensée dont l'exercice de semaine était lié à l'intention sage. Et là, ce que je vous propose, c'est d'investiguer ce qu'on appelle des vicissitudes, ce qui est un fardeau dans le monde, ce qui est un poids. La deuxième vérité noble, c'est aussi la cause de la souffrance. Et le Bouddha l'a partagé dans le sens où nous sommes attachés à la louange, à la réussite, au gain, au plaisir. Et nous avons peur ou nous rejetons le blâme, la critique, l'échec ou la mauvaise réputation, la perte et le déplaisir ou la peine. Lorsque nous regardons la vie, la nôtre, celle des autres, le monde, ces vicissitudes sont simplement un réel. Et ce soir, j'aimerais qu'on approche plus particulièrement la louange et le blâme, ou la valorisation et la dévalorisation, la critique, ou l'appréciation et la dépréciation. Et simplement pour voir comment nous pouvons en être libres. Libres des deux. Bien sûr, normalement, lorsqu'on nous dit combien on nous apprécie, combien ce qu'on fait est bien, ça crée plutôt quelque chose d'agréable. Pas forcément, quelquefois. Le sens du moi est de toute façon un peu désagréable. Et lorsqu'on nous blâme ou qu'on nous critique, ça crée quelque chose de désagréable. Mais nous n'allons pas pouvoir traverser la vie en étant toujours appréciés. Ça fait partie du monde que ça vienne de nous ou que ça aille d'un autre vers nous, il y a ces préférences et ces jugements et ces valorisations qui existent, qui se passent, c'est du réel. Et au fond, ce sont des vicissitudes ou des poids, des lourdeurs, parce que il y a un besoin. J'ai un besoin d'être valorisée, reconnue. Et j'ai un besoin de ne pas être jugée, de ne pas être rejetée. Et alors c'est lourd. C'est lourd parce que je ne suis pas libre. Et toute la question, c'est de savoir comment être libéré de ce poids, de ce fardeau qui est le monde. Ce sont les lois du monde. Nous vivons dans ce monde où il faut réussir, où l'échec est mal vu, où il faut avoir bonne réputation. Et si nous avons une mauvaise réputation, c'est la mort. Et dans l'instant, nous pouvons sentir, nous pouvons nous intéresser. Comment c'est dans l'instant? En général, tout va bien. Tout va bien dans ma vie et tout d'un coup, paf, quelqu'un me blâme. Il y a comme une surprise, un choc. Et il n'y a pas seulement dans l'instant le cœur qui est touché, parce que ça fait mal, mais il y a aussi l'orgueil qui est touché et la réactivité qui vient. C'est quoi ça? C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il me dit là ou elle? Et nous ne reconnaissons pas dans ce moment-là que c'est simplement le monde, ce sont les lois du monde, ça se passe, c'est ce qu'on appelle le samsara. Et au lieu de pouvoir reconnaître l'expérience ici et maintenant, sentir la peine, voir comment le sens du moi se crée, toi, moi, nous y croyons, et alors nous tombons dans cette lourdeur ou ce fardeau où je dois me défendre, je veux ceci, il veut cela, j'aimerais, il faudrait. C'est complexe. Et nous ne voyons pas, nous ne pouvons pas nous désengager. Nous sommes à l'intérieur du jeu. Nous y participons sans voir du tout que c'est un jeu. C'est pour ça que la méditation est importante, ce qu'on appelle le knowing. Nous sommes en train de savoir ce qui se passe. Il y a eu ce contact désagréable qui a créé ces représentations où je peux dire, je suis jugée, je suis méprisée. Ou alors l'autre, mais vraiment ce qu'il fait, nul. Mais je vois, je suis dans le blâme. Je n'aime pas ce qu'il a fait. Ça crée un sentiment désagréable et quelque chose qui fait que je rejette. Et vice-versa. Et il ne s'agit pas de prétendre, de vouloir que tout le monde soit dans une sorte d'harmonie qui n'est pas le monde. Mais il s'agit de s'extraire. Je m'extrais. Je contemple. C'est vraiment ça la contemplation. C'est que je ne cherche pas à ne pas sentir, au contraire. Je vais vraiment dans le ressenti, mais en même temps je le contemple. Donc j'aime le mot désenchantement. Je suis désenchantée de cette croyance absolue dans l'expérience, la mienne, celle de l'autre, et l'interrelationnel qui se joue là. Et c'est pour ça que c'est important d'observer exactement ce qui se passe quand il y a la louange ou le blâme, pour voir comment ce moi se crée. Je crée le moi. Il n'y avait pas vraiment de moi avant, j'étais en train de marcher dans la rue, un peu tranquille, et tout d'un coup je rencontre quelqu'un, et c'est quelqu'un avec qui j'ai eu un vécu douloureux, je sais qu'il ne m'aime pas, et cette perception d'être blâmé, d'être rejeté arrive, et tout se colore différemment, non seulement à l'intérieur mais même à l'extérieur, même l'espace, le silence devient un peu menaçant, sombre. Alors c'est très important à ce moment-là de pouvoir non seulement voir cette manière de loi, de cause à effet où tout d'un coup je tombe dans la souffrance, mais aussi cette loi de cause à effet où je remonte dans la libération. Comment je peux dans l'instant être dans la confiance? C'est ok, il y a eu ce contact, c'est vrai, je sens il y a de la peine, mais je reste dans cette qualité où je me prends comme objet, je regarde ce qui se passe et je ne questionne pas comment je pourrais faire pour être valorisée et pour que cette expérience douloureuse ne se passe pas, mais je regarde comment je peux faire avec cette expérience douloureuse qui se passe là pour ne pas me laisser enchanter. C'est ma responsabilité. Il y a mon fils qui a habité chez moi pendant plusieurs semaines parce que ça n'allait pas chez lui avec sa femme et puis son appartement n'était pas libre. Et puis il aurait dû être libre, il n'était toujours pas libre, il est resté longtemps, longtemps. Puis, au début c'était très chouette. Puis à la longue c'était petit chez moi, il avait ses deux enfants avec lui et puis... Ouf. Oh, même quand je rentrais le soir, puis il dormait, j'allais chez moi, je n'étais pas toute seule. Comment j'ai besoin de ma solitude? Au bout d'un moment, j'étais vraiment frustrée. C'est difficile aussi de se concentrer quand il y a du monde dans l'appartement. J'avais l'impression que je faisais plus bien mes choses. Puis, bon, mais ma foi, c'était comme ça. Et j'étais en train de lire un bouquin d'Ajahn Chah qui s'appelle Being Dharma en anglais. Puis à un moment donné, voilà, je vois un passage où il dit en fait, la question c'est vraiment comment être dans une bonne solitude au milieu de la foule. Alors, immédiatement ça fait plouf. Et cette situation qui me paraissait vraiment. Oh, c'était vraiment, alors la lourdeur du monde était sur mes épaules. Elle est devenue mais géniale parce que c'était l'occasion de savoir vraiment comment je peux être à l'aise dans la foule, comment je peux être dans une bonne solitude avec tout ce qui se passait là autour. Alors c'était vraiment, j'ai vraiment vu comment je tombais dans l'identification, comment je nageais dans l'identification, puis comment après, confiance, ça m'a donné confiance, intérêt, concentration, je ne me perdais plus dans comment je vais faire, j'étais là, pleine conscience, et puis désenchantement, j'étais complètement désenchantée. La situation n'avait plus aucune importance. Ce qui était important, c'était vraiment cette beauté de cette force intérieure qui, ou cette sagesse qui nous montre comment nous extraire pour pouvoir être, peu importe la situation. J'ai eu beaucoup de gratitude pour le fait que ça ait duré aussi longtemps. Nous donnons trop d'importance aux lois du monde. Nous donnons trop d'importance au regard de l'autre, à l'idéal que je me fixe. Je me fixe des idéaux auxquels je ne réponds pas forcément. Et ça rend les choses lourdes. La question c'est vraiment, mais comment est-ce que je peux vivre dans ce monde en faisant que ce soit simple, léger, bienfaisant. Et j'y vis vraiment dans ce monde. Je suis pas. Lorsque je dis s'extraire, il ne s'agit pas d'aller planer sur un nuage. Il s'agit de poser la conscience au bon endroit. Et dans l'exercice de la méditation, lorsque nous venons avec cette qualité de connaissance, je sais quelle est l'expérience juste maintenant. C'est une expérience du monde. Il y a un corps, le corps est impermanent. Juste maintenant, il y a un corps. Vous le sentez, votre corps? Juste maintenant, il y a un corps. Juste maintenant, il y a une sensibilité. Elle est probablement dans quelque chose de pas trop désagréable. C'est assez simple, assez unifié, peut-être pas, je ne sais pas, pour moi c'est comme ça. Comment est le mental? Et alors, il y a cette qualité de connaissance. Je sais qui je suis juste maintenant, pas qui je pense être. Mais qu'est-ce qu'il y a là dans ce corps-esprit? Il y a tout ça. Et vous pouvez sentir la différence. Si j'y suis et que j'y crois, ou bien si je m'extrais et que je vois. Il y a le même truc, c'est le même truc. Mais la position est différente. Et tout l'art de la méditation vient de cette investigation. Comment est-ce que je peux me lier à l'expérience d'une manière légère, bienveillante, tranquille? Nous donnons cet esprit enchanté qui donne tout le pouvoir à ce qu'on appelle le monde conditionné. Bouddha Gosa, qui est un mystique très quelques centaines d'années après le temps du Bouddha, qui a écrit le Visuddhimagga, il compare le moment où nous réalisons tout d'un coup que nous donnons trop d'importance à ce monde. Il compare ça à un homme qui croit avoir pris un beau poisson et tout d'un coup se rend compte que c'est un serpent. Et c'est vraiment ça. Nous restons coincés dans ces questions complexes qui n'ont pas vraiment de réponse en croyant que c'est ça qu'il faut faire. Hein. Je crois que c'est l'acte juste, que c'est l'effort sage, que c'est... Et puis tout d'un coup, je vois, mais non, il n'y a aucun problème. C'est juste qu'il faut que je contemple, que je me sorte de ce... de ce jeu des conditions. Et c'est difficile avec la louange et le blâme parce que toute la société nous pousse à être dans le plaisir, à éviter la peine, à être dans la réussite, à éviter l'échec, à gagner beaucoup, c'est pas bien si je suis pauvre, alors que j'ai de toute façon assez. C'est pernicieux. C'est une forme de toxicomanie. Il y a une non-liberté. Je lis une petite parole. La quête intérieure commence avec la compréhension, comme la science après Einstein, que la seule chose que nous puissions observer est notre propre expérience de l'univers. D'essayer d'employer la pensée pour expliquer ce qui se passe entre toi et moi en ayant l'objectif de trouver une solution sans venir à l'intérieur, c'est voué à l'échec. C'est le perpétuel recommencement du samsara. Et dans l'exercice de la méditation, c'est très très important. Lorsque quelque chose émerge, où est-ce que je me tourne? Je suis vraiment dans l'investigation, une investigation qui questionne non pas comment avoir une bonne méditation, mais comment pouvoir me prendre moi-même comme objet. Au fond, qu'est-ce que j'observe juste maintenant? Peu importe ce que j'observe, mais qu'est-ce que j'observe? Je n'ai pas besoin d'observer quelque chose que j'aime bien. Il faut que j'observe ce qui est là. Parce que soit nous nous tournons vers le monde, je veux la louange, je veux le plaisir, je veux une confirmation d'une satisfaction pour le moi, ou nous nous tournons vers le désenchantement. Et nous ne pouvons que voir que parfois nous sommes dans cette emprise. J'ai vraiment envie d'être reconnue, de faire partie, de ne pas être rejetée. Et je peux juste sentir comment je me mets en prison. Alors que si je sais, c'est des fois comme ça. Ça change. Et si vous observez bien dans votre vie, c'est vraiment comme ça. C'est vraiment que quelquefois, même avec nos proches, nous sommes en odeur de sainteté. Puis après, tout le monde la chambre. Ouf, oh, celui-là, celle-là, vraiment. La pensée ordinaire, elle cherche toujours à être ceci ou cela. Et l'investigation, elle questionne, mais qu'est-ce qui est là ? Et de voir comment ce moi se crée pour qu'il puisse se déconstruire, cette... Au fond, c'est tout le processus de méditation. Voir comment, d'un état, je l'ai déjà dit, mais je peux le redire, d'un état simple, ça tombe dans l'identification. Et comment, de cet état où vraiment c'est complexe, figé, confus, douloureux, l'investigation est possible. Et qu'alors, ploup, 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 ok. Pas de moi, c'est un leurre, je me dupe moi-même. C'est Ajahn Chah qui dit « L'esprit est intrinsèquement paisible. De cette paix, l'anxiété et la confusion émergent. Si vous pouvez voir et reconnaître cette confusion, alors l'esprit retourne à la paix. » Et la première vérité, c'est de sentir comment d'abord quelque chose nous appelle. Quand il y a, justement, quand quelqu'un nous a blâmé, qu'il y a eu ce sens du bien et du mal, tout d'un coup, ah, là il y a quelque chose. Et je vais aller investiguer. Je laisse cet appel me questionner. Je vais investiguer. Ah, il y a eu ça, ça c'est pas. J'ai ressenti ça, ça a construit ça. Ah ouais, c'est ça qui était frustré. Ah ouais. Et tout d'un coup, je sens, eh ben, c'est bon, j'ai compris, j'ai fait ma part. J'ai fait ce travail de compréhension de la souffrance. Et le poids n'est plus là. C'est nettoyé. Je vais finir avec une parole de Joseph Goldstein qui dit « L'acte d'un être éveillé ou d'un homme ordinaire est le même. L'un comme l'autre sont un avec l'acte. Mais l'homme ordinaire se perd dans l'acte, en créant une personnalité identifiée et fixe. L'être éveillé se lie totalement à l'acte, mais il sait qu'il n'y a personne qui agit. » Je vous propose qu'on prenne une demi-heure en silence où nous essayons vraiment de nous extraire de ce moi pour essayer de le regarder. Comment il est le corps, un corps, comment ça les ressentit, des ressentis, le mental, un mental, et j'y crois pas. Et quand j'y crois, je vois au moins que j'y crois.